Robert Ilunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment se présente aujourd'hui la situation des droits de l'homme en RDC?
Avec ce qui s'est passé avant 2012, nous pensions bien que nous devions progresser dans les bons et où le respect des droits de l'homme devrait être observé à travers les pays. La modernisation n'est pas seulement par les biens matériels que nous voyons, c'est aussi dans les esprits des gens. Et la situation des droits de l'homme n'est pas toujours bonne. Si, par exemple, les personnes qui luttent pour les droits des citoyens sont inquiétées, cela veut dire tout simplement que tout citoyen qui oserait réclamer ses droits sera arrêté aussi. Parce que là, c'est déjà un signe qui montre qu'il n'y a pas bonne foi pour que les droits de l'homme soient démis dans notre pays. Les amis qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ça n'a pas de sens. Les prisonniers d'opinion ne doivent plus exister dans un pays qui se veut démocratique. Je commence par les droits à la vie. Les gens qui meurent ici chaque jour par mégarde ou soit négligence du gouvernement congolais peuvent être comptés parmi les personnes qui perdent la vie comme ça gratuitement. Les gens qui meurent quand il pleut, des accidents avec les bus, les 207, qui tuent les gens chaque jour en grand nombre, où le gouvernement prend une disposition et on fait pression et il laisse à l'avantage les 23 morts sur la rivière Kalamoussi. C'est vraiment inconcevable, toujours des 107, pour dire qu'il n'y a pas une bonne organisation, il n'y a pas une bonne politique de transport dans notre pays. Là, ça implique réellement les droits à la vie qui n'est pas respecté parce que les gens périssent à travers ces comportements. Je prends par exemple, ça c'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je peux aller faire allusion à l'article 5. En vous donnant un seul exemple, à Kingabwa, le point qu'on appelle point chaud. Vous voyez les cachots, la manière dont les cachots sont là-bas et comment est-ce que les gens sont arrêtés. C'est du spectacle. Il y a même un certain commandant qu'on appelle Longangé. Pour ceux qui ne connaissent, pourquoi on l'appelle Longangé? Parce qu'il fouette comme à l'époque coloniale quand on avait fouetté Bakanja. Longangé, c'est le bourreau de Bakanja. Ça, on ne peut jamais dire qu'il y a respect des droits de l'homme. Et les arrestations arbitraires, les opposants politiques sont en prison. Et on crée un motif des droits pour dire que ce sont des condamnés des droits communs. On dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les droits à une justice équitable. Voyons aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme qui ont été assassinés par les membres, les préposés du gouvernement. Où est-ce que nous en sommes avec les procès, soi-disant équitables? Prenons le cas de Floribert Chebea. Ils ont décollé, au commerce nous avons chuté, nous allons atterrir, ça complique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont là-dedans, mais qui sont encore en liberté. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, on a beaucoup d'éléments qui montrent réellement qu'il y a un crime d'État. On ira plus loin avec ce dossier-là. On ne pourra pas tolérer cela. Les droits économiques, sociaux et culturels. J'ai des exemples. Les droits à l'éducation. Il n'y a pas longtemps de grandes publicités. L'enseignement est gratuit dans certaines provinces pour les niveaux élémentaires. Poser la question sur les droits à l'éducation si les enfants étudient gratuitement et les parents ne déboursent rien. Ils déboursent plus que c'était prévu. Dans la théorie, oui, parce que nous sommes spécialistes dans des théories. Mais en pratique, ce n'est pas le cas. L'exploitation des citoyens, d'un peuple exploité par les entreprises comme la SNEL. Les gens payent pas ce qu'ils consomment. Ils payent plus que ce qu'ils consomment. Et on regarde, on fait semblant. Ailleurs, vous trouverez, il y a des compteurs qu'on met dans des maisons des gens pour l'équité des dépenses de ce que moi j'ai consommé, je dois les payer. C'est un devoir que moi j'ai en tant que citoyen. Mais vous, en tant qu'une institution, une entreprise de l'État, soi-disant transformée en commercial, vous n'allez pas commencer à escroquer. C'est une escroquerie pure et simple. Les gens qui n'ont pas du courant, pendant une certaine période, on n'envoie pas de factures. Et on laisse passer la période qu'on va envoyer des factures. Et vous voyez tant de factures avec des rappels imaginaires, flous, pour dire que vous devez payer, vous êtes en retard de ceci. Ou si pas, vous ne payez pas, on vient rompre du courant.
On peut dénombrer tous ces cas de violation à combien? À titre approximatif.
Je ne dirais même pas en pourcentage en nombre. Nous, les amis de Nelson Mandela, on a toujours dit, nous, l'essentiel, ce n'est pas de compter les cas de viol. Même un seul cas, il s'agit d'une violation. Qu'il soit 100, il n'est pas dit que si c'est 100, maintenant l'ampleur, il n'y a plus d'ampleur. Non, non, non. Comme Dieu a demandé, n'est pas péché. Il n'y a pas un pourcentage quelconque qu'il faut pécher à 95% ou à 99%. La même chose, il ne faut pas violer les droits de l'homme comme la tolérance zéro. On peut dire les violations des droits de l'homme zéro.
Et vous proposez quoi comme solution?
Oui, il y a d'abord des choses qui sont tellement très simples. Pour que qu'on cesse à torturer les gens, il suffit seulement une seule parole. Ça ne demande pas un financement de la Banque mondiale ou soit des institutions, une coopération bilatérale ou bien coopération nord-sud, sud-sud. Non. Une seule parole. La parole là viendra de la bonne foi. Si les membres de notre gouvernement ont foi que les droits soient respectés, ils doivent interdire à ces messieurs de ne pas torturer les gens, de ne pas arrêter les gens arbitrairement. Et il y a aussi des avancées, par exemple, à CNDH. Il y a même une loi qui a été promulguée. Oui, c'est bon. Mais vous verrez que la CNDH n'est qu'une institution citoyenne, n'a rien à faire avec les politiques. Mais les politiques sont là en train de se précipiter, voir qui mettre là-bas. Nous restons vigilants. Nous recommandons aux membres du gouvernement de prendre à cœur la situation des droits de l'homme comme un droit pour tout citoyen. Et cela va marquer l'image de notre pays.
En ce qui concerne la CNDH, pensez-vous qu'elle peut résoudre tous les problèmes?
La CNDH va faire quand même quelque chose, mais tout compte aussi de la bonne foi. On peut mettre une institution. Quand on avait la dictature, il y avait des commissions des droits de l'homme, il y avait même un département des droits et libertés des citoyens. Ça existait. C'est presque la même chose comme la CNDH aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on ne voyait pas? C'était seulement pour la consommation extérieure, pour avoir un certain crédit vis-à-vis de la communauté internationale, des Nations Unies. Mais, en fin de compte, c'est les mêmes les rôles, l'essence de notre existence, nous les ONG droits de l'homme. Qu'on veut permet aujourd'hui que nous ne puissions pas exister. Nous allons exister.
Combien de cas d'arrestation arbitraire on peut dénombrer dans des prisons?
Il y en a plusieurs. Nous sommes en train de faire le monitoring sur les cas des prisons. Il y en a plusieurs. Si on peut faire référence en 2012, j'ai difficile à vous le dire. Je prends un seul dossier d'arrestation. Prenons le cas des ressortissants de l'Équateur qui sont arrêtés là-bas. Vous avez suivi, il y a des révélations graves qui sont d'être faites par certains détenus qui ont été mis dans les complots de cette arrestation-là, qui implique si réellement on avait une justice qui était indépendante et qui pouvait bien sanctionner, là où il n'y a pas l'impunité, certains même magistrats devraient être pris, être en prison, et ceux qui sont innocents dans la prison devraient sortir. Mais voilà dans quelle sphère nous sommes en train d'exister. Comme nous sommes aussi à l'étape de préparer les rapports alternatifs des ONG droits de l'homme sur l'examen périodique universel, vous verrez bien, vous allez nous lire, ce sera un moment opportun.
Robert Ilunga, je vous remercie.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.